Portrait. Habitants des écrins. Une rencontre avec Marie Sangnier, pisteuse et gardienne de refuge.
Moi, je suis de Chamonix.
Philippe, c'est quoi la nature des blessures?
Je suis de Chamonix, mais je suis fille de guide et j'ai été trimballée. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. C'est-à-dire qu'un jour, mon père m'a déposée dans un refuge et puis, à vrai dire, il n'est pas revenu me chercher. Quoi.
Donc, ce que j'ai pu savoir, c'est sur la route de Fréjus, c'est un poignet et il est dans les arbres.
Voilà. C'était la gardienne du refuge de l'Alpe de Villard d'Arène qui ensuite est venue... s'installer ici dans ce qu'on appelait, c'était pas vraiment un refuge, mais ça s'appelait un chalet skieur sur les pistes de Serre Chevalier à Chantemerle. Et c'est comme ça que j'ai été en grande partie élevée ici.
Le pylône, entre le pylône 7 et 8.
Alors bon, évidemment, à cette heure-ci, c'est blindé de monde et tout ça. Mais je veux dire, on a des moments à l'ouverture et à la fermeture où on est vraiment les rois du monde, quoi. C'est super chouette d'être là, d'ouvrir sa piste ou de fermer sa piste. Ou quand on va en déclenchement, c'est pareil. On vient très tôt le matin, on vient à 6h du matin pour aller déclencher les pentes et tout ça. Et c'est drôlement chouette d'être jusqu'à 9h du matin tout seul. Okay. Quand on aime skier, c'est vraiment c'est le métier idéal, quoi. Alors évidemment, on est un pisteur secouriste, comme je suis, gagne beaucoup moins d'argent qu'un moniteur de ski, c'est sûr et certain. Mais en même temps, il se fait 10 fois plus plaisir, quoi. Donc voilà, après c'est une question de choix de vie, hein, tout simplement. Hein. J'ai voulu travailler en refuge quand j'étais très jeune. Alors je faisais les portages pour des refuges, les portages à pied ou à ski. Et puis après, j'ai voulu être bergère. Et j'ai gardé dans la réserve du Combeynot, au niveau du col du Lautaret. Là, j'ai gardé un troupeau pendant de nombreuses années. Pendant l'été, j'étais là-haut. Et j'avais la fenêtre de ma chambre qui donnait sur la Meije. Je voyais la Meije de profil, comme ça, parce que j'étais vraiment au col du Lautaret. Donc c'est de là qu'on a la plus belle vue sur la Meije. Et c'est là que j'ai commencé à rêver de garder le refuge de l'Aigle. À rêver d'abord d'y monter, et ensuite, la première fois que j'y suis montée, je me suis dit que j'attendrais le temps qu'il faudrait, mais que je le garderais un jour. J'ai beaucoup travaillé dans d'autres refuges. Et puis jusqu'au jour où le gardiennage de l'Aigle s'est présenté, j'ai tout fait pour l'avoir et puis je l'ai eu. Et j'ai eu de la chance parce que c'était un refuge qui n'avait jamais été gardé par une femme seule. Je l'ai gardé de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 36 ans. Pour moi, c'était une grande année, l'année de mes 30 ans, parce que j'avais réussi... l'ascension d'un sommet dont je rêvais depuis très longtemps, c'est-à-dire l'Amada Blanc au Népal. Et puis j'ai eu l'Aigle. C'était une super aventure, quoi. Vraiment une super aventure. Mais enfin, je pense avec le recul que j'avais mis la barre quand même drôlement haute, quoi, parce que c'est vachement difficile. C'est tellement marquant que du coup, après... On n'est plus jamais la même personne, quoi. On n'est plus jamais la même personne. Moi, je dis tout le temps qu'en dehors de mes enfants, depuis que j'ai quitté l'Aigle, tout me paraît insipide. Tout me paraît fade, quoi. Fade et sans saveur. C'était un endroit au niveau éléments naturels qui me convenaient. Ça me convient. Pas d'arbres, pas d'herbes, pas la moindre vie, que de la glace, de la neige, de la roche et du vent. C'est ça, l'aigle. Il n'y a rien d'autre que ça. On a l'impression qu'on est, qu'on est le maître du monde, quoi, parce qu'on domine tout, on est là, on voit tout, on voit l'Alpe d'Huez, on voit toute la vallée de la Guisane, on voit tout de haut, quoi. On a l'impression, dans ce refuge, on a l'impression, quand on est assis dans la cuisine, on a l'impression qu'on est dans un avion, complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Bon, d'abord, il faut aimer la solitude, parce que l'aigle, c'est pas que un refuge blindé de monde, hein. C'est un refuge où on peut passer des semaines et des semaines seul à cause des éléments naturels qui se déchaînent, quoi, à cause de la météo, à cause de la neige qui tombe en abondance et tout ça. Et je veux dire, il faut réussir à rester comme ça, isolé à 3500 mètres d'altitude, sans rien pouvoir faire parce que c'est trop dangereux. L'aigle, on peut pas y aller, comme ça, voilà, pour garder un refuge, quoi. L'aigle, on y va parce que c'est quand même une philosophie de vie, quoi. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Le vouloir et l'avoir vraiment en soi comme une partie de soi. Moi, je disais tout le temps que l'aigle, c'était comme mon enfant, quoi. C'est incroyable. Mais bon, en même temps, c'est embêtant parce que en même temps, on s'attache. Je me suis trop attachée, quoi. Puis j'ai jamais réussi à atterrir dans la société normale, quoi. J'ai jamais réussi à retrouver ma place. Dans un endroit comme ça, les gens ne sont pas les mêmes. Les gens sont empreints d'une certaine humilité, on va dire. Pratiquement chaque jour, je voyais des gens dont c'était le rêve depuis des dizaines d'années de monter à l'aigle. C'était une consécration, quoi. Après l'aigle, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de projet. C'était l'aigle et après, rien d'autre. Je me donnais énormément de mal parce que le métier de gardien de refuge, il est intéressant quand on donne ce qu'on a, quoi. Et pratiquement ce qu'on est, quoi. J'étais pas du tout là-haut pour le rapport d'argent, c'était pas du tout ça. C'était plutôt pour la performance professionnelle. C'est-à-dire que je travaillais qu'avec des produits frais. Je préparais beaucoup de choses moi-même en bas, à l'intersaison. Tout ce qui était confiture et tout ça, c'était tout du maison. Et puis après, du 1er juin au 15 juin, je faisais quasiment un tour de France, quoi, en 15 jours, pour aller à la pêche de produits typiques, quoi. J'allais chercher mon fromage en Savoie, ma charcuterie en Alsace, mon vin dans la vallée du Rhône. À l'époque où on parlait vraiment des refuges, comme vraiment au niveau de l'accueil et surtout au niveau de la nourriture, c'était déplorable, quoi. C'était vraiment déplorable. Tout le monde se plaignait. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Et alors, donc, c'était mon challenge, quoi. C'était mon moteur. C'était la qualité de la nourriture, quoi. J'y étais arrivée parce que, à la fin, j'avais des gens qui montaient manger à l'aigle, qui montaient même pas faire la course. C'était vraiment super, j'avais réussi, quoi. Et si j'ai tenu l'aigle, inconsciemment, à la base, c'était pour en mettre plein la vue à mon père qui était un héros de la haute montagne. Bon, j'ai pas réussi à l'épater parce que, bon, c'est quelqu'un qui est assez inaccessible, mais j'ai bien réussi la mission que je m'étais fixée, quoi. J'ai bien réussi à féminiser et à adoucir ce monde. Quand j'étais là-haut, je disais tout le temps un peu de douceur dans ce monde de brut. Et moi, d'être là-haut avec des bouquets de fleurs sur la table et des desserts aux framboises et des jolies petites nappes et des jolies petites robes à fleurs, c'était, pour moi, c'était adoucir quand même ce monde de brut épaisse avec leurs crampons, leurs piolets, leurs pantalons en Gore-Tex, leurs casques, leurs frontales. Quelquefois, quand j'arrivais au printemps, j'arrivais en hélico au mois de juin. Là, je rouvrais le refuge, c'est-à-dire ma partie à moi, ma chambre, ma cuisine, tout ça. Et puis j'arrivais avec tous mes produits frais, tout ça. Et puis alors le soir, évidemment, je leur faisais à manger, tout ça. Et je leur disais, mais c'est fini les gars, on n'est plus en refuge là. La vie en refuge, c'est terminé là. La vie des mecs bien cracra, bien qui bouffent de la merde et tout, c'est terminé. Ça me faisait rire parce qu'ils me regardaient tout le temps en me prenant pour une folle. C'était très rigolo.